contes à l'Ouest.
Bienvenue dans votre émission Les Contes d'Elena. Je suis là aujourd'hui avec vous pour parler de l'amour, comme d'habitude. Ceux et celles qui me connaissent déjà le savent, c'est mon sujet préféré. Heureusement, l'amour, il y a mille façons de l'aborder, car ce qui compte, ce n'est pas le sujet en soi, mais c'est le cheminement vers le sentiment le plus fort et le plus intense qui nous est donné d'expérimenter sur Terre. Et aujourd'hui, on va mettre l'accent sur l'amour qui nous tombe dessus. Toutes ces rencontres que nous n'avons pas prévues et qui viennent percuter et bousculer toutes nos certitudes, déboussoler nos boussoles, faire casser nos plafonds de verre. Et ces rencontres surprises, on les appelle encore les heureux hasards en amour. Et encore, hasard, c'est une façon de parler, parce que, comme disait Paul Valéry, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Vous voyez l'idée de rencontrer l'amour au moment où on s'y attend le moins est très romantique et ça fait rêver, forcément. Ça alimente beaucoup les contes, les trames narratives des films, romans en l'eau de rose. Et si on a cette impression de hasard, c'est tout simplement que notre attention est focalisée ailleurs, pas sur la recherche d'un ou d'une partenaire. Et lorsqu'on s'aperçoit qu'on est tombé dans le panneau de l'amour, eh bien, ça crée le buzz. Et la flèche de Cupidon ne s'arrête jamais. En revanche, elle peut changer de cible. Vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi trouve-t-on souvent l'amour quand on s'y attend le moins? Je vais déjà vous partager ce que j'en pense. Parce que déjà, on abandonne le contrôle. Lorsqu'on est dans une phase de doute ou de perte de repère, on cesse de vouloir maîtriser son image et d'imposer des critères rigides. On devient plus authentique et c'est cette authenticité qui attire. Ensuite, parce qu'on est plus enclin à créer de la place pour l'autre. Il y a beaucoup de célibataires qui sont dans l'illusion qu'ils veulent une relation alors qu'en réalité, ils ne laissent pas de place à l'autre dans leur quotidien. Oh, lorsqu'on traverse une crise, ce besoin de connexion devient plus vital. Oui. Parce que une autre raison, c'est parce qu'on se focalise moins sur soi et plus sur le lien. L'amour n'est pas une question de confiance en soi, mais de connexion. Ce qui fait qu'une relation naît, ce n'est pas le fait que l'un ou l'autre soit prêt ou prête ou parfait ou parfaite, mais bien que deux êtres arrivent à s'accorder et à se reconnaître dans leur humanité. En tout cas, sachez les amis que l'amour, ça peut vous tomber dessus comme une astéroïde au moment où vous vous attendez le moins. Par exemple, vous pouvez pêcher la femme de votre vie dans une huître. Oui, parfaitement. Sachez que c'est déjà arrivé dans l'histoire que je vais vous raconter maintenant. Le pêcheur et l'ondine. Il était une fois un pêcheur qui pêchait des huîtres perlières. Un matin, comme d'habitude, il rapporta chez lui sa récolte et ouvrit la première coquille. Surprise! À la place de la perle se trouvait une femme si petite qu'on aurait dit une miniature. Et sa beauté éblouit le pêcheur qui sentit son cœur chavirer. La minuscule créature lui dit « Merci de me délivrer, je suis une ondine. J'ai été enfermée dans cette huître par une fée qui me déteste. » À ces mots, le pêcheur frémit. Il connaissait la réputation des ondines. Malgré leur beauté parfaite, ce sont les pires sourcières qui vivent dans les eaux. Leur cœur est dur et leur cruauté est sans pareil. Malheur aux hommes qui en tombent amoureux. Et les ondines entraînent au fond des flots. Ils les entraînent carrément et les hommes disparaissent à tout jamais. Pauvres pêcheurs qui n'ont rien demandé. À part quelques petites huîtres gratinées pour l'apéro de samedi soir, Lundine poursuivit d'une voix envoûtante.
« Viens avec moi, oh mon pêcheur, je te montrerai mon royaume de corail. Tu verras des fonds sous-marins tapissés d'anémones multicolores. »
Le pêcheur referma l'huître et Lundine fut réduite au silence. Mais il avait le cœur brisé de perdre ainsi la femme de sa vie. Il eut alors une idée simple et géniale. Il plongea l'huître dans un banc d'eau douce en espérant que la douceur de l'eau allait avoir un effet relaxant sur Lundine. Et il se passa alors un phénomène curieux. Pendant une heure, l'eau de bain se déchaîna. Il y avait des vagues monstrueuses, des tourbillons, de l'écume, des mugissements. Perché sur la baignoire, le pêcheur recevait au visage des embruns rageurs. C'était la méchanceté de Lundine qui jaillissait hors de l'huître. Lorsque la tempête se calma, le pêcheur retira l'huître du bain et l'ouvrit avec précaution. Lundine souriait détendue, paisible, et dans ses yeux brillait une douceur infinie. Le cœur battant, le pêcheur l'aida à s'extraire de la coquille. Elle retrouva aussitôt une taille normale. Délivrée de la méchanceté qui l'empêchait de grandir, elle venait de s'épanouir sous l'effet de la gentillesse. Le pêcheur et son Ondine se marièrent et furent heureux ensemble toute leur vie. Fin de l'histoire! Et nous avons quand même affaire ici à un pêcheur tendre et romantique, le cœur ouvert à l'inconnu et qui est sorti de sa zone de confort, carrément. Vous voyez, au lieu de plonger l'huître dans un bain d'eau douce, il aurait pu la plonger dans de l'huile chaude et s'en faire un beignet d'huître pané à la ciboulette. Mais fort heureusement, notre pêcheur est allé au-delà de ses préjugés basés sur le stéréotype de l'ondine cruelle et méchante et il a cru en la puissance de l'amour qui se cache derrière la coquille. Paris gagnant, comme le dit le conte, le pêcheur et l'huître furent heureux ensemble toute leur vie. Moralité, on ne sait jamais d'où l'amour va surgir. Les apparences sont trompeuses, les ondines pourraient être vos amoureuses, et il suffit de suivre le petit protocole du nettoyage à l'eau douce tel qu'il a été décrit dans le conte, et l'amour est sauvé. Comme nous l'avons vu dans cette première histoire, l'amour vient du fond de l'océan, mais il peut aussi tomber du ciel, et ceci plusieurs fois de suite, comme c'est le cas du conte que je vais vous conter maintenant. Les fiancés venus d'ailleurs. Dans un royaume lointain, vivait un roi nommé Ivan avec ses trois filles, la princesse Maria, la princesse Marilyn et la princesse Mariette. Et le roi Ivan, c'était un papa très cool et tranquille et qui avait décidé de laisser ses filles se marier comme elles l'entendent. De leur côté, les filles n'étaient pas du tout pressées ni emballées à l'idée de se marier. Elles vivaient ensemble dans une sorte d'harmonie bien heureuse et passaient leur temps à se faire des randonnées et de longues balades autour du château. Un jour, alors que les princesses étaient en train de se promener dans le jardin fleuri, tout d'un coup, le ciel s'assombrit, se couvrit de nuages noirs et la tempête menaça. « Rentrons vite à la maison, mes chères filles !» déclara le roi. À peine était-il revenu au palais que l'orage éclata. Alors, le plafond s'ouvrit et un faucon majestueux vola à leur rencontre. Il se posa sur le sol et se changea en robuste jeune homme qui déclara « Bonjour, votre majesté. Je viens aujourd'hui faire ma demande. Je veux prendre pour épouse votre fille, la princesse Maria.
Écoute, jeune homme, si tu plais à ma fille, je ne peux l'empêcher d'aller vivre sa vie. La princesse Maria, qui avait toujours rêvé de voler à vol d'oiseau, accepta de bon cœur. Le faucon l'épousa et l'amena vivre dans son royaume. Un an après, alors que le roi se promenait avec ses deux autres filles qui étaient restées vivre avec lui au château,
Une nouvelle tempête s'approcha et le ciel s'assombrit.
« Rentrons à la maison, mes chères filles !» s'écria le roi.
Et à peine étaient-ils à l'abri dans leur palais, quel orage éclata, encore plus intense que celui de l'année dernière. Le toit se rompit, le plafond s'ouvrit, et un aigle entra en volant. Il se posa devant eux et se changea en solide gaillard.
« Bonjour, votre majesté. Je viens demander la main de votre fille. »
« Oui, mais à une condition, » répondit le roi. « Vous allez me réparer le toit avant de partir. » J'avais à peine fini les travaux pour réparer les dégâts du passage du premier fiancé qui était venu l'année dernière pour emporter ma fille aînée.
D'un seul coup de main, le nouveau fiancé répara le toit en deux temps trois mouvements. Ensuite, il saisit la princesse Marilyn dans ses bras et l'emporta dans son royaume.
Quoique un peu attristé par le départ de sa deuxième fille, le roi fut vite consolé de voir son toit réparé et le plafond rénové. Une année s'écoula encore. Un jour, le roi dit à sa plus jeune fille qui avait commencé à lui marcher dans les pattes
« Allons nous promener dans le jardin en fleurs, ma chère fille, en espérant que tu vas faire une belle rencontre à ton tour. Il n'y a pas de raison. »
Et donc, ils se promenèrent un moment. Puis, la tempête s'annonça une nouvelle fois, plus intense que jamais, et fit frémir les murs du château. À peine rentrés dans leur royaume, ils entendirent la bourrasque éclater, le plafond se déchirer et un grand corbeau rentra.
« Ah non, ça va pas recommencer, le toit encore volé en éclat !» s'écria le roi en fronçant les sourcils.
« Bonsoir, votre majesté. Je suis venu demander la main de votre fille. »«
Oui, oui, je sais pourquoi tu es venu. Il suffit de réparer les dégâts et ma fille est à toi. »
Le corbeau ne se fit pas prier. D'un seul coup d'aile, il répara le toit. Le plafond redevint comme neuf. Le corbeau prit la princesse dans ses bras et l'emporta dans son royaume.
Le roi resta seul comme une pierre. Il passa toute une année sans ses filles et il commença à s'ennuyer. Un jour, il décida d'aller se promener tout seul dans le jardin en fleurs en espérant qu'une belle femme oiseau allait se poser dans son jardin et allait lui proposer sa main.
Je veux bien moi aussi un amour qui me tombe du ciel, se dit le roi.
Ça a l'air vraiment cool comme expérience. Après tout, ça a bien marché avec mes trois filles. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas avec moi, se disait-il. Après tout, je garde toujours le charme de l'ancien et je porte toujours ma couronne. En effet, à peine sorti dans le jardin, une nouvelle tempête s'annonça. Le ciel devint complètement noir et l'air se chargea d'électricité statique.
Ha ha ! Elle va être belle celle-là, s'extasie le roi de plus en plus impatient.
En effet, à peine rentré au royaume, et l'orage éclata. Mais cette fois-ci, à la place des tonnerres qui grondaient, il y avait des cloches qui sonnaient. Et pour qui sonnaient les cloches? Devinez un peu. Pendant ce temps, la porte du royaume s'ouvrit avec grâce. Elle laissa rentrer la plus belle, la plus gracieuse des créatures que l'on ait jamais vue passer au royaume. C'était la femme Pône, mi-femme, mi-oiseau, vêtue d'une robe en dentelle bleue et son éventail de plumes dorées. Dorées qui illuminaient tout le château. Notre roi était pris de tant de beauté sous le choc émotionnel. C'est la première fois qu'il voit une créature si lumineuse franchir la porte du royaume. Bienvenue à la maison, mademoiselle. J'apprécie beaucoup le fait que vous n'ayez pas eu à casser le plafond pour entrer. À la différence des autres fiancés que j'ai eu l'honneur de recevoir au château, c'était très délicat de votre part, vous savez. Mon royaume pour vos plumes dorées qui me font chavirer.
Et voilà, On n'en sait pas plus pour cette histoire. Bon, le conte ne nous le spécifie pas, mais on peut imaginer que les deux tourterons ont fini par se marier et avoir beaucoup d'enfants métis, mi-humains, mi-oiseaux. Vous voyez ce qui se passe quand l'amour tombe du ciel ? Cela peut créer de nouvelles espèces étonnantes. Et ça finit par illuminer tout le paysage et porte un nouvel éclairage.
Tomber du ciel, à travers les nuages, quel représage pour un aiguilleur du ciel. Tomber du lit, fauché en plein rêve, frappé par le glaive de la sonnerie du réveil. Tomber dans l'oreille d'un sourd qui venait de tomber en amour la veille d'une hôtesse de l'air fidèle. Tomber du haut de la passerelle dans les bras d'un bagagiste un peu volage, ancien tueur à gages. Comment peut-on tomber plus mal? Tomber du ciel, rebelle aux louanges, chassé par les anges du paradis originel. Tomber du sommeil, perdu connaissance, retomber en enfance du grand sapin de Noël, voilé de mystère, sous mon regard ébloui par la naissance d'une étoile dans le désert. Tombé comme un météore dans les poches de Balthazar, Gaspard ou Melchior, les trois fameux rois mages trafiquant d'import-export. Tombé d'en haut,
Oui, j'adore cette idée de l'amour qui nous tombe dessus, qui tombe du ciel, qui tombe de la terre, qui peut surgir de n'importe quel endroit. Ça, c'est ça qui est magique. Et j'ai une tendre pensée pour le prince distrait. C'est une autre histoire. C'est un prince distrait qui, en dépit de ses nombreux troubles, qui rencontre l'amour, tout simplement, sans l'avoir prévu. Voilà. Et pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, qui ne connaissent pas le prince distrait, j'ai envie de vous décrire un tout petit peu sa pathologie. Il souffre de TDAH, les troubles de déficit d'attention avec dominante inattentive. Ça veut dire qu'il est très, très distrait, justement. Si distrait que ça lui arrive parfois de se tromper du château, avec toutes les conséquences que cela entraîne. En tout cas, c'est ce qui est arrivé au prince de l'histoire que je vais vous raconter maintenant. Le prince distrait. Il était une fois un prince beau et intrépide. Pourtant, le roi son père pensait qu'il ne trouverait jamais de princesse, car il était terriblement distrait. Et le roi se lamentait. Blanche-Neige, il aurait dû l'épouser, mais il s'est perdu dans la forêt. La Belle au Bois dormant, il avait oublié l'adresse du château. Cendrillon, n'en parlons pas, ce jour-là, il est arrivé en retard après les 12 coups de minuit. Un jour, le roi va voir son fils et lui dit « Mon fils, j'ai consulté le registre des princesses. Elles sont toutes mariées. Regarde. Sauf une qui habite dans un château avec donjon. Alors, vas-y. Trouve-la et marie-toi, bon sang. » Après une longue chevauchée, le prince arriva devant un château. Mais le roi lui avait dit... il se souvenait plus de ce qu'il lui avait dit le roi. « Est-ce que c'est un château avec donjon que je dois retrouver ou un château sans donjon ?» Le prince réfléchit un instant et décida sur le coup sans donjon. Il s'approcha. « Il y a quelqu'un ?» hasarda le prince. Après un instant, une ravissante jeune fille apparut et le prince s'excusa. « Mademoiselle, la porte était ouverte et je... »« Oh non, ne vous inquiétez pas !» répondit la jeune fille. « Je suis moi-même si distraite, j'oublie toujours de la fermer. »«
Mais qui êtes-vous, jolie demoiselle ?» lui demanda le prince sous le charme.
« Ah mais je suis une princesse, mais... » Vous voyez, personne ne me connaît car j'ai oublié de m'inscrire sur le registre des princesses. Et vous ?
Moi, je ne sais plus qui je suis.
Le prince se mit à barbouiller, à bafouiller et à rougir. La princesse distraite le trouva si charmant qu'elle en tomba immédiatement amoureuse. Quand il eut retrouvé sa voix, le prince lui demande si elle voulait l'épouser et elle accepta. Les deux amoureux se marièrent et furent très heureux, distraits qu'ils étaient. Quant à la princesse du registre des princesses habitant en château avec donjon, eh bien, peut-être attend-elle encore son prince. Quand vous voyez le côté distrait des deux mariés n'enlève en rien le charme de l'amour, au contraire, il l'intensifie. Et c'est même grâce à ce côté distrait que le prince et la princesse finissent par se rencontrer, n'est-ce pas ? Comme dit la sagesse populaire, qui se ressemble, s'assemble. Quand vous avez l'histoire, comme vous savez, l'histoire avait commencé par une série de rendez-vous manqués. Avec toutes les princesses que notre prince aurait dû épouser, si seulement il était neurotypique, si seulement il se souvenait bien de toutes les choses qu'on lui avait demandé de faire. Or, il loupe le coche à chaque fois. Mais c'est justement cette série de loupés qui le mène finalement vers le chemin de l'amour. Le prince a bien fait de se tromper du château finalement. Ce qui compte, c'est qu'il est tombé sur la bonne princesse au bon moment. Et on va terminer notre émission en beauté avec une dernière histoire d'amour qui n'était point prévue. Et pourtant, là encore, l'amour vous percute en plein vol. Il nous tombe dessus au moment où on s'attend le moins. Et pour couronner le tout, il prend une apparence particulière. Mesdames et messieurs, rien que pour vous, voici le conte du prince gourmand et le dragon. Et je vous recommande vivement de ne pas suivre le compte si vous êtes au régime, par exemple, car il y a tant de biscuits faits maison là-dedans, il y a tant de bons pâtisseries de toutes sortes que cela risque de vous faire craquer. Et je salue au passage l'OR principal du compte, qui est pâtissier virtuose de ouf et qui visiblement a un vrai talent pour capturer les dragons. Et voici le conte, le prince gourmand et le dragon. Il était une fois un prince qui adorait les gâteaux. Il avait inventé mille et une recettes délicieuses. La meringue à la perle de rosée, c'était lui. La charlotte fourrée à la nougatine et aux pépites de lune, c'était encore lui. Le prince passait donc la plus grande partie de son temps à faire des gâteaux et des biscuits. Et il était très heureux ainsi. Il était si heureux qu'il ne songeait même pas à se marier, tellement il avait l'esprit pris par la pâtisserie. Un jour, un grand dragon attaqua le royaume sans crier gare. Il balaya les toits des maisons, brûla les champs, assécha les fontaines. Le prince, n'écoutant que son courage, abandonna les gâteaux, pour une fois, enfourcha son cheval et se lança à sa poursuite, du dragon. Donc, il suivit le dragon à bride abattue jusqu'au crépuscule avant de le voir s'engouffrer dans le creux d'une montagne. Le prince abandonna sa monture et commença à grimper. Mais où était donc la cachette de ce dragon ? Soudain, le prince s'arrêta stupéfait. Et là, changement de décor. Et une petite maison se dressait devant lui. Et de la cheminée s'échappait un panache de fumée. Étonné, le prince frappa à la porte. Une ravissante jeune fille lui ouvrit. « Bonsoir, mademoiselle, avez-vous vu passer un dragon par hasard ?» demanda le prince, intimidé par sa beauté. Et la jeune fille regarda le prince d'un drôle d'air, puis soudain elle éclata en sanglots. « Je suis le dragon. Une méchante sorcière m'a jeté un sort. » Je me transforme en dragon au lever et je ne redeviens moi-même qu'à la tombée de la nuit. » Ému par la détresse de la jeune fille, le prince tenta de la consoler et lui demanda ce qu'elle faisait de ses nuits. « Bah, je fais de la pâtisserie, car c'est la seule chose qui me console, » répondit la jeune femme en mugissant. « Des gâteaux ?»«
Des gâteaux ?»
Conquis par cette jeune femme décidément pas comme les autres, le prince lui expliqua combien lui aussi aimait les desserts. Tous les deux passèrent alors la nuit à comparer leurs recettes et la jeune fille en oublia son chagrin. Trop occupée à préparer une tarte aux nuages confits, les jeunes gens ne virent pas le jour se lever. Quand les rayons de soleil frappèrent doucement les joues de la jeune fille, elle poussa un cri de surprise et de peur. Et elle avait très peur. Mais rien ne se produisit. L'amour avait brisé le sortilège. Le prince et la jeune fille se marièrent dès leur retour au royaume et vécurent heureux jusqu'à ce que la mort les sépare. Fin de l'histoire. La morale de cette histoire, l'amour est plus fort que tout. N'hésitez pas à partager vos recettes avec l'être aimé. À votre avis, où commence l'histoire d'amour dans ce conte ? On peut dire que c'est à partir du moment où le prince affronte la dragonne, n'est-ce pas ? Seulement, il ne sait pas encore dès le début que c'est la fin de sa vie. Pour lui, c'est le combat classique avec le énième dragon, comme il y en a tant dans les contes de fées. Et là, il se prend un coup double. Non seulement l'amour lui tombe du ciel, mais en plus, il prend une sacrée apparence. Mais heureusement, il y a la nuit pour faire éclater la vérité et la magie opère. Le prince et la princesse ont tout le temps pour se découvrir à travers une activité ludique. Ils ont des passions communes, ils passent la nuit ensemble, il y a une bonne vibe, ils sont dans la matière, ils mettent la main à la pâte et tout de suite, ça marche. C'est la chaleur tournante. On est parti pour un happy end bien gourmand. Et cerise sur le gâteau, l'amour finit par briser le sortilège. Voilà, les amis, on s'achemine en douceur vers la fin de cette émission. J'espère que vous avez bien apprécié ce voyage au pays de l'amour qui tombe du ciel. et pas que, hein. Comme nous l'avons dans nos histoires, nous l'avons vu dans nos histoires d'aujourd'hui, on ne sait jamais de quel buisson l'amour va surgir. Il peut prendre des drôles de chemins, des drôles d'apparences, et nul n'est à l'abri, hein. Nul n'est à l'abri. Mais quoi qu'il en soit, on va dire que toutes les portes d'entrée sont bonnes pour entrer en relation avec les autres et s'éclater à volonté. Il suffit de rester ouvert à l'expérience et d'oser varier les fréquences en fonction de vos goûts, de vos désirs et de vos disponibilités. Et pour terminer, je vous invite à fredonner avec moi le refrain magique qui ouvre la porte à l'amour. Et c'est tout simple, hein, vous allez voir. Ouvre, ouvre, ouvre la porte de l'amour. Ouvre, ouvre, ouvre la porte de l'amour. Ouvre les volets, ouvre ton cœur. Et tiens-toi prêt à vivre le bonheur. Et c'est la fin de cette émission. C'était Elena, votre princesse de l'amour sur Quartier des Ondes. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la suite de l'aventure au pays de l'amour qui ne se termine jamais. D'ici là, portez-vous bien et profitez de ce début d'automne pour ouvrir bien les portes, les fenêtres, les cœurs, les volets. On ne sait jamais à quelle heure l'amour va passer. Et on se quitte en douceur avec Aimer.
Plus beau.
Aimer, c'est voler.